Bonjour tout le monde et bienvenue à la balado-diffusion du bulletin GP. Mon nom est Abdou Sall et ceci est l'émission d'après-course dans le cadre du Grand Prix de Hongrie 2022, 13e course de la saison 2022 et la dernière malheureusement avant les grandes vacances estivales. Pour parler de cette course à Budapest, j'accueille celui qui m'a accompagné et qui m'a invité au match du CF Montréal contre New York City FC. Je parle de Marc-André Fortin. Salut Marc-André.
Salut Abdou, ça va?
Oui, ça va bien, toi?
En pleine forme. Tu as une belle fin de semaine comme ça.
Ah, maison. Puis, je te dis encore merci pour le billet, c'était super apprécié.
Ça fait plaisir. C'est toujours le fun de se voir. Donc, quand on a une occasion qui se présente, on est mieux d'en profiter.
Et puis, vous ne le croirez pas, mais c'était la deuxième fois qu'on se rencontrait en vrai. La première étant, évidemment, le Grand Prix du Canada cette année. Donc, il faut préciser que moi, j'habite à Montréal et Marc-André habite à Sherbrooke. Alors, il y a quand même une bonne distance entre les deux villes, donc c'est assez rare les chances de se croiser.
Exact.
Donc, Marc-André, je vais te lire un article qui est paru cette semaine avant le Grand Prix de Hongrie. Donc, on va commencer. Alors, après une nouvelle déconvenue lors du Grand Prix de France, la Scuderia Ferrari veut rapidement oublier et passer à l'étape suivante, le Grand Prix de Hongrie. Mattia Binotto a demandé à ses pilotes de viser le doublé. Et ça vient de France Racing. Quelques jours plus tard, Max Verstappen, premier, Lewis Hamilton, deuxième, et George Russell, troisième. Où sont les Ferrari? Pas sur le podium, en tout cas. En quatrième place, c'est Carlos Sainz. Cinquième position, Sergio Perez. Ah ben, regardons ça! Charles Leclerc, sixième. Lando Norris, septième. Fernando Alonso, huitième. Esteban Ocon, neuvième. Et Sébastien Vettel, dixième. Et on a juste perdu un pilote, c'est Valtteri Bottas, à deux tours de la fin, mais il finit bon dernier, étant donné qu'il a complété plus de 90% de l'épreuve. Et tu veux savoir où est parti Max Verstappen?
J'écoute.
Dixième. Tu veux savoir où est parti Lewis Hamilton?
Septième.
George Russell a eu la pole. Et les deux Ferrari sont partis respectivement deuxième et troisième. Donc, la porte était grande ouverte. Là, je vais garder les munitions pour plus tard parce que c'est le retour espéré et attendu de la chronique for Ferrari 5 un peu plus tard. Mais Marc-André, on va y aller avant tout avec les évaluations post-Grand Prix. Donc, performance contre performance et moment cocasse.
Ben écoute, je suis obligé de faire pratiquement performance ex aequo pour la performance du jour avec Max Verstappen et Lewis Hamilton. Les deux ont su profiter de chaque occasion qui se présentait devant eux. Max qui, d'une manière ou d'une autre, qui est encore difficile à expliquer, s'est ramassé premier. Bonne stratégie au puits encore. On a décidé d'utiliser l'under-cote pour dépasser à la fois Hamilton, Carlos Sainz et Charles Leclerc sans vraiment qu'on s'en rende compte. Et ça, c'est Red Bull qui réussissent à faire de la magie avec des stratégies des fois qu'on se demande pourquoi. Tu sais, là, il y avait aussi, quand Max Verstappen est entré, il y avait aussi l'incertitude de la pluie qui venait jouer dans les cartes aussi. S'il aurait fallu que Red Bull rentre puis que deux tours plus tard, la pluie tombe et qui sont obligés de revenir, mais là, on parle pas du tout du même résultat, là. Donc, il y a aussi beaucoup d'incertitudes dans tout ça. Bon, eux avaient les chiffres, là, puis toutes les données météorologiques, là, ce que je n'avais pas, mais quand même, ça reste que dans cette incertitude de la température et de la météo, c'était quand même une décision compliquée, je crois. Finalement, il a fait super beau, là. On n'a pas eu de problème à part peut-être selon Russell dans le dernier tour, là, il y a eu de la pluie. Donc, non, vraiment, c'est une performance surprenante encore de Red Bull qui réussissent à sortir Max avec une victoire. Une huitième, il a été concentré. Il y avait sûrement, selon ce qu'on peut entendre aussi, un problème de clutch. Donc, tout ça vient compliquer la tâche, effectivement. Mais si je peux parler d'Hamilton, incroyable encore qu'il ressort avec... T'sais, on voit que la Mercedes s'améliore. On savait qu'elle allait s'améliorer. Mais c'est encore et encore, premièrement, une belle cohésion puis une belle coalition entre Mercedes, Hamilton, Russell. Il n'y a pas eu de mésentente. On savait ce qu'on faisait. Mm-hmm. On a mis les deux pilotes sur des stratégies différentes pour justement qu'il n'y ait pas de problème. Russell savait très bien que malheureusement, sa position qu'il avait obtenue de manière très extraordinaire lors de la journée de samedi,
ouais,
durant la course, son rythme était moins là. Donc, je pense qu'il était prêt quand même à s'avouer vaincu devant Hamilton. Mais ça, c'est encore là. On voit dans les grandes équipes qui sont capables d'avoir une belle entente puis d'avoir un consensus. Puis qui est vainqueur présentement? C'est Mercedes avec 34 points.
Ouais.
Bon, Red Bull, Verstappen, Perez en ont obtenu 35. Mais ils ressortent de là avec d'incroyables statistiques. Et si on regarde le petit tassement des constructeurs, ils sont à 30 points de Ferrari.
30 Ouch.
Points.
Ouch.
Et on se souvient, là, on en parlait justement dans notre petit podcast de mi-saison et on se disait, est-ce que Hamilton et Mercedes vont réussir à rejoindre Ferrari? Ça commence à se concrétiser de plus en plus. Là.
Oui.
30 points. Là. Présentement, je vais vous donner les chiffres là, pour... pas juste vous donner le 30 points.
Oui, oui, oui.
Présentement, Ferrari a 334 points. Mercedes en a 304. Et Red Bull se file tout seul avec 431 points. Près de 100 points de plus, là, à quelques points près là, de Ferrari. Et voilà, c'est une fin de semaine comme ça. Et là, on s'en va en pause. Tout le monde peut être heureux, sauf Ferrari.
Ouais, et ça, je suppose que c'est ta contre-performance.
Ouais, on va en parler plus tard. Je pense qu'on peut se garder ça pour plus tard. Sinon, est-ce que j'avais noté une autre performance qui. Ben écoute, Ricardo encore.
Ouais.
Semblait bien parti, on s'entend. Puis je veux pas enfoncer de clous, là. Fait que, tu sais, je le mentionne juste parce que, bon, il a accroché Stroll. Maintenant, lorsqu'un pilote accroche Stroll, c'est toujours de la même manière. Donc, c'est pour ça qu'ils ont...
C'est ça. Moi, j'ai...
C'est nébuleux.
C'est nébuleux. Mais j'ai cru que c'était un incident de course. Mais au final, Stroll avait raison cette fois-ci. Il a donné de l'espace. C'était un dépassement legit par l'extérieur. Comme un classique à Hungaroring à ce virage. Donc, c'est Stroll qui... ben c'est Ricardo qui est fautif là-dessus au final. Moi, je pensais que c'était un incident de course, mais en revoyant l'incident, effectivement, c'est Stroll.
Si tu me permets, oui, je donnerais une petite mention aussi honorable, finalement, à Alpine, qui encore sort avec deux pilotes dans les points, avec des bons points quand même. Ça n'a pas été facile, on s'entend, là, je vois ta face, ça n'a pas été facile, mais encore là, réussissent à sortir avec des points par... quelconque façon. Donc, je voulais le mentionner, même s'ils n'ont pas connu leur grande course. Là.
Ben, moi, tu vois, je pense que outre Ferrari, c'est ma contre-performance parce que ils ont tenté la stratégie à un arrêt avec médium dur, mais les durs ne fonctionnaient pas. Et c'est peut-être là aussi où... Ça fait mal à Alpine. Ouais. Je comprends, ils ont marqué des points. C'est quand même un avantage sur Alpine qui, je pense, à moins que je me trompe,
garde la quatrième place. Tu peux me corriger si je me trompe.
Effectivement, Alpine est quatrième avec 99 points et McLaren cinquième avec 95 points.
Donc,
tous les deux obtiennent 6 points aujourd'hui. Donc, ex aequo, la situation ne change pas.
Donc, c'est le statu quo. Donc, quand même, c'est bien, mais je pense que ça aurait été un peu plus. Mais on s'entend que, évidemment, le top 3... Les trois écuries ont occupé les 6 premières places, donc il n'y avait rien à faire.
Dans ce temps-là.
Ouais. Et as-tu un moment cocasse?
Mais Toto Wolff qui sourit.
Ouais.
c'est un bon début. On revoit le Toto plus enclin. Je ne suis pas un fan de Toto Wolff, je pense que tout le monde le sait. Mais écoute, voir Mercedes comme ça. C'est bien. C'est une belle écurie. Ils réussissent à faire des belles choses. Puis Toto qui sourit, pour moi, c'est un petit moment cocasse parce que des fois, ça n'a pas toujours été facile. Puis j'ai déjà hâte à Drive to Survive de voir la montée des émotions de Mercedes cette année parce qu'ils n'ont pas connu ça souvent, là, de commencer une saison aussi durement. Puis là, remonte la pente un peu. J'ai hâte de voir la partielle d'émotion qui va être dans cette écurie-là, ça va vraiment donner quelque chose d'intéressant.
Ouais, j'ai vraiment hâte de voir c'est ce moment-là où on voit justement Mercedes faire des... Ben, avoir des difficultés, puis ensuite progresser d'un bon côté. Donc, j'ai hâte de voir.
Oui, si tu me permets un petit dernier commentaire sur ça. On se souviendra que Christian Horner disait lors de la dernière saison... ça va faire du bien de voir Toto qui ne réussit pas à faire quelques nuits. Mais je pense que cette année aussi, les nuits vont avoir été difficiles pour Toto et Mercedes. Mais là, ça va bien. Donc, profitons-en pour eux.
Ouais. Il ne manque plus que la victoire.
Oui.
Sinon, moi, ma performance, ben, de facto, Verstappen et Hamilton, ils ont été... Ben, et surtout, bon, on en reparlera de ces deux-là. Contre-performance, outre Ferrari, ben, je l'ai dit, Alpine. Et Daniel Ricciardo aussi, ça a été assez difficile. Je crois que lui aussi a été, pris par les pneus durs aussi. Mais moment cocasse, c'est Red Bull. En fait, Red Bull France, qui s'est permis de tweeter... pendant la course, on vous présente Anna Schmitz, qui est la stratégiste, la stratège de Red Bull. Comme ça, comme par hasard, comme lancer une flèche indirecte à la Ferrari et ses nombreux problèmes de stratégie. Donc, ouais.
Ben oui, je viens de voir.
Ouais, le timing du tweet. Ouais, et c'est ça. Écoute, c'est assez, c'était bien envoyé de la part de Red Bull, donc vraiment, vraiment bien. Je vais garder mes munitions pour Ferrari, on va parler de Max Verstappen. Parti 10e après une séance de qualification assez difficile, blocage de frein, problème de moteur hier. Aujourd'hui, avec Sergio Perez, ont changé le moteur qui n'a entraîné aucune pénalité. Et par 10e, fait un très bon départ. 2 undercuts très bien exécutés. 2 dépassements sur Charles Leclerc parce qu'il y en a un qui a été fait bien, mais sur le même tour, un peu plus loin, il a fait un tête-à-queue. Mais ça ne l'a pas empêché de dépasser Leclerc à nouveau pour les commandes de la course. Pas tant pour les commandes de la course et la victoire ainsi. Et je pense, bien évidemment, je pense que c'est la première fois que Verstappen gagne un Grand Prix de la 10e place, mais dans le bottom 5 du top 10. Alors, c'était toute une performance de la part de Max Verstappen. Et pour moi, je vais dire tout de suite, le championnat est clos. Rendu là avec 80 points d'écart, même s'il y a un sprint au Brésil, à moins que Ferrari décide de... Ah, je vais arrêter de parler de Ferrari en ce moment. Là, je garde ça pour plus tard. Mais je crois que on est proche du jeu 7 et match rendu là. aujourd'hui, ça a été une démonstration clinique de la part de Verstappen.
Oui, effectivement. Puis, tu sais, écoute, je suis quand même d'accord avec toi. On va être prudent quand même dans c'était match, mais quand même. Écoute, avec l'avance que Verstappen s'est pris, c'est un peu le clou qui s'enfonce de plus en plus sur Ferrari en ce moment. Parce que, écoute, aujourd'hui, tu pouvais rêver à un double podium. Je ne vais pas m'étendre sur Ferrari, mais tu voyais Verstappen 10e, tu disais, OK, on a peut-être une chance d'avoir une bonne performance. Puis Verstappen te sort cette dite performance qui réussit à gagner 25 points. Alors que contre toute attente, et là il s'amène vraiment le. Je pense que bon, ça sent le back-to-back pour Verstappen.
Ouais.
Écoute, je pense que la seule chose qui pourrait arriver, c'est que Red Bull commence à avoir des problèmes de fiabilité. Puis c'est la seule chose que je vois qui pourrait ne pas permettre à Verstappen de gagner cette saison. Mais pour l'instant, la fiabilité est là. On s'entend, Red Bull va devoir faire un changement de moteur à un moment donné, mais ce n'est pas ça là, qui va venir jouer dans les cartes, selon moi. Ça sent le championnat, il peut déjà commencer à... Et ce qui est le fun, je pense, pour Max, c'est que là, il va l'avoir gagné haut la main, sans qu'on puisse dire « Ah, oh, il y a eu des... »
Moments controversés.
Des moments controversés. Bon, oui, Ferrari n'a pas été très solide, mais malgré tout, Max était toujours là. Il a été constant, il n'a pas fait d'erreur. Quand il en fait, il réussit à les sauver avec son petit 360. Il a quand même réussi à contenir Russell aussi tout de suite après ce 360-là. Donc, c'est plein de petits détails qui font en sorte que Max mérite le championnat encore cette année.
Ouais.
Et j'ai hâte de voir la fin de saison. Ça va en petit mois de vacances. Je pense que ça va être bien pour tout le monde. Puis écoute, il va rester 9 courses. 10?
Ouais, 9 à peu près.
9, ouais, 9. Ouais. Fait que on verra. Mais oui, ça sent le championnat, effectivement, chez Red Bull et chez Max.
Ouais, je suis vraiment content de le voir. Il a été calme quand même, Verstappen, aujourd'hui. Bon, il y a eu un petit problème avec, je pense que c'était la pédale d'accélérateur, mais c'était pas quelque chose de problématique au final, parce que lui et son équipe ont été capables de contrôler le tout. Autant aussi pour Perez avec ce petit problème moteur en haut. Quand il changeait les vitesses. Quand même, Red Bull a bien géré les choses. Alors, je suis vraiment content pour lui. Et vraiment, ça va vraiment donner, je dirais, un petit boost pour non seulement la suite, le programme triple qui va être assez demandant, mais aussi ils vont avoir la tête un peu relax, à moins que des problèmes de fiabilité ne surviennent, parce qu'on n'est pas à l'abri de ça. C'est toujours le cas en course automobile, mais dans ce cas-ci, 4 pour Verstappen, 80 points, il faudrait carrément que... par exemple, on parle du programme triple, que Verstappen ne marque pas de points dans les trois courses,
exact,
et que Leclerc gagne les trois épreuves. On parle de Belgique, Pays-Bas et Italie. Et la course est soudainement relancée. Mais là, Verstappen peut se permettre de terminer deuxième. Donc, ce n'est plus quelque chose
de problématique.
Comme par exemple...
Il peut même se permettre de terminer sixième une fois ou deux. Pas dramatique non plus, tu sais.
C'est ça.
Ça donne une liberté pas quasi totale, mais la pression est moins forte. Puis ça, tu le vois. Quand la pression est moins forte, il y a moins d'erreurs. Le pilote est encore plus calme.
Ouais.
Ça va être difficile de venir jouer dans la tête de Max et de Red Bull.
Ouais.
À ce moment-ci, je crois, et on dirait que ça fait 12 fois que je dis ça, mais je crois vraiment que ce Grand Prix-là peut avoir fait une grande différence aussi dans la course. Parce que là, les épaules sont plus lousses, on s'en va en vacances, ils vont pouvoir se dire, OK, regarde, on a tout joué dans cette première moitié de saison, malgré beaucoup, beaucoup d'adversité lors des trois premiers, alors que Max a eu deux abandons frustrantes qui, on se souviendra, lors de Bahreïn, il était deuxième avant d'abandonner, il restait trois tours.
S'il y avait
eu ces points-là aussi, ça aurait fait une grande différence. Donc, c'est tout ça qui vient jouer aussi.
Et puis aussi, tu vois, je pense que j'écoutais le podcast. Je pense que c'était soit en Autriche, avant le Grand Prix de France ou en Autriche.
Okay.
Mais le podcast de la BBC, Julian Palmer et Sam Bird, qui sont d'abord d'excellents analystes, disaient, ben, tu vois, la dynamique de Red Bull, elle est meilleure, mais c'est plus calme que ce que c'était l'année dernière parce que, évidemment, Red Bull avait comme objectif, c'était l'année ou jamais de battre Mercedes. Ce qu'ils ont fait, mais tu vois que la dynamique dans la bataille contre Ferrari, elle est totalement différente parce que c'était houleux entre Red Bull et Mercedes parce que évidemment Mercedes était l'équipe à battre. Mais maintenant que Red Bull a battu Mercedes, ben c'est comme s'ils voyaient Ferrari comme bon, on est meilleur que Ferrari. On sent qu'on est meilleur que Ferrari. Donc c'est moins problématique. Il y a moins de commentaires à l'emporte-pièce de shots fired, excusez-moi le terme, à travers les médias. Il n'y a pas de coups, c'est moins féroce. De coups techniques, c'est moins féroce que ce que c'était l'année dernière. Parce que là, tu vois, bon, il y a eu des changements les écarts ont été grands. Bon, d'abord, Leclerc avait une avance de plus de 40 points avant le Grand Prix d'Australie. Après le Grand Prix d'Australie, là, l'écart est de 80 points entre Verstappen et Leclerc au moment où on se parle. Mais tu vois, Verstappen a une chance de se contenter de deuxième place sans se stresser. Et même, comme tu dis, une sixième place, à la limite, une fois sur deux, ce n'est pas problématique. Tandis que, par exemple, dans ce même Grand Prix l'année dernière, Verstappen qui finissait, je pense qu'il avait fini huitième compte tenu de la... En comptant la disqualification de Sébastien Vettel, comparé à Lewis Hamilton qui finit deuxième, ça change une dynamique. Le non-Grand Prix de Belgique, la course à Zandvoort les points récoltés au sprint parce que l'Italie, ben, ça s'est fini un par-dessus l'autre. ça a changé le cours de la saison. Donc, là-dessus, Verstappen peut arriver avec deux courses à la maison totalement tranquille. Puis bon, s'il arrive en abandon, certes, ça va être frustrant, mais il pourra se dire, bon, OK, j'ai quand même une avance considérable sur Charles Leclerc et cette victoire à Budapest a été ce qu'il fallait.
Je te pose une question.
Ouais.
Maintenant qu'on parle que le championnat est presque clos. Là.
Ouais.
Où Max gagne-t-il le championnat? Parce que Hamilton, son record établi, c'est, si je ne me trompe pas, 5 courses avant la fin de la saison, si je ne me trompe pas. En tout cas, ce serait une statistique à vérifier. On pourrait en reparler. Là,
Je sais que Hamilton avait gagné, je pense, en 2015, avait gagné le titre aux États-Unis. Alors qu'il restait quoi? Mexique, Brésil, Abu Dhabi. Donc, il restait à peu près 3 courses.
À peu près 3, oui.
Hamilton, en 2017, l'a gagné au Mexique. 2019, il a gagné au Mexique aussi. Donc, il restait à peu près 3-4 course à la fin de la saison. C'est sûr qu'on est, on est loin du, de quand Schumacher avait gagné le titre, justement en Hongrie ou en France en 2002, ou bien même Nigel Mansell il y a une trentaine d'années, ben, il y a 30 ans. Mais peut-être qu'il pourrait gagner le championnat en Amérique du Nord.
Oui, je pense que ça peut, être, ça peut être quelque chose de... Puis, tu sais, j'imagine qu'à un moment donné, ça doit être aussi un souhait pour Red Bull de gagner le plus tôt possible. Puis aussi, le championnat des constructeurs là, qui commence visiblement à devenir de plus en plus intéressant. Là, ouais. Avec c'est pratiquement là, qu'on parle de 97 points d'avance. C'est vraiment impressionnant. On s'en va en pause. Il y a beaucoup de choses qui mettent confortable Red Bull. Comme tu disais, la relation est plus saine aussi entre Ferrari et Red Bull. Est-ce que c'est parce que Ferrari se sent aussi un petit peu plus... c'est moins bon que Red Bull? Fait que là, ils se disent, oh, même si on fait des coups bas, ça ne fonctionnera pas. Je suis quand même étonné de voir que la relation soit aussi bonne.
Ouais.
Mais c'est le fun. C'est le fun. Ça donne une autre... ça donne une autre approche à tout ça. Puis, écoute, tant mieux pour le spectacle, pour tout ce qui vient avec.
Ben tiens, parlons tout de suite de Ferrari et de la sim. C'est le retour de la fameuse chronique For Ferrari's Sake, avec un thème cette fois-ci. Je ne sais pas si tu as entendu le thème, Marc-André.
Oui.
Ouais. Écoute, c'était un autre cirque de la part de Ferrari. Deuxième, troisième, puis Verstappen dixième, puis tu laisses passer ça. Jesus Christ. Excusez-moi, mais ça, je ne peux pas...
Non, c'est inacceptable. C'est... Puis, je vais te lire un texto que j'ai reçu d'un de mes amis.
Vas-y.
Il s'appelle Gabriel, d'ailleurs. Je le salue. Il me dit... lui, c'est un énorme fan de Leclerc. C'est un énorme fan de Ferrari. Et puis, il me dit tantôt... Leclerc doit changer d'écurie. Ferrari sont en train de lui gâcher sa vie. Ça dénote là, de l'importance en ce moment. Puis, il me dit aussi, c'est triste de voir un pilote avec autant de talent dans une écurie qui détruit autant de carrières. Puis dans les dernières années, je suis quand même pas si... je suis quand même d'accord avec lui. T'sais. On a vu Vettel qui, bon, oui, il a fait des erreurs, mais il y avait le championnat pratiquement... pas pratiquement en main, mais il aurait pu gagner le championnat avec Ferrari. Il y a plein de choses qui est arrivé aussi pour faire en sorte que j'ai l'impression qu'en ce moment, Ferrari ne font n'importe quoi.
Ouais.
Ils jouent au dé. Il lance les dés. OK, ça tombe sur 6. On met des durs. C'est vraiment... C'est du grand n'importe quoi. Puis c'est dommage pour Leclerc. Qui sentait qu'il pouvait enfin... peut-être pas aller au titre. Parce que bon, il fallait quand même que tu battes Verstappen, qui est dans une forme extraordinaire, qui est dans une maturité extraordinaire, qui est là pour gagner. Mais quand même, je pense que Leclerc voulait aspirer ou au moins compétitionner. Puis en ce moment, il ne peut pas. Bon, par ses erreurs, oui, mais aussi par les nombreuses erreurs de Ferrari. Comment Leclerc peut terminer sixième aujourd'hui? Comment? C'est inacceptable.
Non, mais moi, le problème que j'ai là, c'est pourquoi... T'as vu que Ferrari a bien vu qu'Alpine en arrachait avec les pneus durs. Pourquoi? Alors que Leclerc était devant Russell, ont décidé de mettre des durs, sachant que ça ne fonctionnerait pas, et que Verstappen était sur une charge, et ils font la bêtise. C'est un but contre son camp. Ils avaient l'opportunité de réduire l'écart avec Max Verstappen, malgré le fait que ce dernier, même en partant dixième, faisait une belle remontée. Mais essayez au moins d'aller grappiller quelques points, parce qu'on ne sait jamais comment le championnat peut se tourner après au retour des vacances. Mais Non, Ferrari a décidé, bon, on va faire ça différemment. La porte est grande ouverte. C'est juste incroyable. Est-ce que cette équipe a oublié comment gagner? Est-ce qu'il faut carrément que Jean Todt revienne chez Ferrari comme consultant à la limite? Parce que c'est pas normal à quel point cette équipe est brouillonne dans ses stratégies. Et non seulement tu te dis, ça s'est mal passé à Paul Ricard, ça a été un bad trip à Silverstone, mais au moins on a gagné le Grand Prix. Mais non, c'est de pire en pire. Et moi, je me souviens, je ne sais pas si c'était dans la discussion avec les gars de la monoplace, avec le groupe de la monoplace, ou bien avec vous au bulletin GP en privé, mais je me disais, je ne donne pas cher à Ferrari, j'attends le moment où ils vont planter. Et c'est exactement ce qui est arrivé, mais là, c'est de pire en pire, c'est de pire en pire en pire en pire en pire. Désolé de faire une référence soccer, mais Ferrari, ça ressemble un peu au CF Montréal au début des années. Ils sont bons au début de match, puis à la fin, ils échappent toujours le ballon pour se faire concéder un but, puis ce sont des points perdus. C'est exactement ça. Ferrari, c'est pas la première année que ça arrive. 2017, 2008, 2018, et même le fameux Grand Prix de Singapour 2008, et même sans l'histoire du Crash Gate, ça c'était une erreur de la part. L'arrêt au puits de Felipe Massa était une erreur. Donc, moi je crois que depuis que Michael Schumacher est parti à la retraite, depuis que Ross Brawn est parti, depuis que Jean Todt est devenu président a quitté Ferrari pour devenir président de la FIA, cette équipe est à la dérive, multipliant mauvaise décision après mauvaise décision. Là, c'est rendu à un point où, oui, je fais jouer de la musique de cirque. Oui, depuis que j'ai ce podcast, j'ai utilisé la chronique for Ferrari Sec à quelques reprises. Mais ça devient redondant parce que cette équipe se tire dans le pied à n'importe quel moment où ils ont l'opportunité. Et pas seulement on parle pas seulement en niveau stratégie, comme ça a été le cas aujourd'hui, mais aussi des erreurs de pilotage, comme ce fut le cas à Paul Ricard, comme ce fut le cas à Imola, comme ce fut le cas à plusieurs occasions avec Carlos Sainz. Cette équipe, on aurait pu avoir un championnat serré, mais à chaque fois, à part Bahreïn, il n'y a pas une course. Bahreïn et Arabie Saoudite, il n'y a pas une course où on n'a pas vu Ferrari faire une erreur. C'est pas normal. Puis c'est une équipe qui se dit, ah, cette année, c'est la nôtre. Je suis désolé, c'est le même discours que j'entends des fans des Maple Leafs depuis 1967. Alors, à un moment donné, là, il va falloir laver son linge-sale en famille chez Ferrari. Je suis désolé, mais c'est rendu là parce que 80 points entre Verstappen et Leclerc, et je crois que l'avance doit être un peu plus grande aussi au championnat des constructeurs, mais sérieusement, Ferrari est en train de l'échapper solide.
Ben écoute, tu parles de laver son linge en famille, je pense que ça va prendre plus que laver son linge en famille. Ça va prendre des renvois, ça va prendre du mouvement. Parce que tu peux pas. Ce qui est dommage aussi, c'est que bon, la grande histoire de Ferrari. Puis aujourd'hui, Ferrari n'est pas attrayante. Là. Pour quelqu'un de compétent, pour un ingénieur compétent, pour quelqu'un qui aime gagner, qui veut gagner, demain matin, ils ne s'engageront pas. Ils ne s'engageront pas avec Ferrari. C'est tout ça que tu es en train de remettre en question. Là. Ta manière de penser. Tes actions dans un Grand Prix, en course, sont en train de mettre en jeu toute ta relève. Parce que demain matin, est-ce que les jeunes pilotes vont encore vouloir ou vont regarder Ferrari de la même manière qu'à l'époque?
Mm-hmm.
Je ne suis pas certain qu'aujourd'hui, un jeune pilote se dit « OK, ouais, pas le choix d'aller avec Ferrari, hein? Grande histoire, toujours champion. Hein? » Aujourd'hui, si j'étais un jeune pilote, Ferrari m'approcherait, je serais comme « Ah, oh, ben regarde, je vais regarder mes autres options, puis si jamais je vois rien, ben, je vais venir avec toi. » Je pense qu'on en est peut-être là. C'est triste à dire, mais il va falloir vraiment qu'il y ait un changement de mentalité dans cette écurie-là.
Oui.
Parce qu'il l'échappe, comme tu dis, complètement. C'est inacceptable qu'une écurie historique comme ça perde des poils par eux-mêmes. Puis c'est dommage. C'est vraiment dommage.
Ouais. Parce que je sais, Jean-Sébastien disait, bon, peut-être France, t'es un moment, peut-être pour la France, la semaine dernière, c'était pas la faute à Mattia Binotto. Je me souviens encore des commentaires de Nick Heidfeld, je sais pas si c'était pris hors contexte, mais il disait que, bon, un ingénieur ne peut pas être team principal. Bon, ça dépend, mais est-ce que Mattia Binotto a encore à ce qu'il faut pour être un team principal? Je veux dire, oui en quelque sorte, parce qu'au moins Ferrari est capable de gagner des courses, mais dans l'optique de gagner un championnat, est-ce que c'est encore assez pour être l'homme de la situation? Je ne pense pas. Puis c'est pas un genre de commentaire que j'aime faire pour dire si telle personne est l'homme de la situation, surtout dans un podcast. Mais rendu là où t'es en train de d'échapper le ballon. Puis depuis qu'il est là, 2019, il y avait peut-être, bon, la Mercedes était super forte, on va se dire, mais Ferrari pouvait, en début de saison, aller brouiller les cartes. Mais exécutait très mal les consignes d'équipe. 2020, la voiture était nulle. 2021, c'était beaucoup mieux, mais pas assez pour se battre pour des victoires. Et là, cette année, avec la nouvelle réglementation, tous les espoirs étaient là. On disait, ben, Ferrari, et on le voyait venir en plus. Ferrari avait bien préparé sa voiture en avance.
Uh-huh.
Et on l'a vu en début d'année, c'était exactement ce qu'on voyait. C'était le résultat de mois de préparation. Et là, ils le font, mais ils ne sont pas capables de capitaliser sur une saison longue. Oui, vas-y.
Puis si tu me permets, remettons ça en perspective. Je viens de lire là, les commentaires parce que j'ai pas pu écouter l'entrevue d'après-course de Max Verstappen. Il dit... À la fin, même avec un 360, on a gagné. Même avec un 360, Ferrari n'a pas réussi à remporter cette course. Puis, si je me sens en perspective sur toute la saison, même avec une écurie comme Red Bull qui mise tout sur 2021, qui ont pratiquement délaissé le développement 2022 pour être certain de réussir à battre Mercedes, cette année, ils mènent. Sais-tu pourquoi? C'est parce que Ferrari ne sont pas capables de capitaliser. Aujourd'hui, on ne parlerait pas de la même course si Leclerc n'aurait pas perdu d'importants points en raison des stratégies, en raison de ses erreurs également. Mais ça, c'est normal. C'est un jeune pilote. Il n'est pas encore au niveau de Max Lewis avec la pression qu'il a sur les épaules et tout ça. On l'a vu être pas capable de prendre cette pression-là.
Ouais.
Mais à la fin de la journée, Red Bull ont 97 points de plus que Ferrari en n'ayant presque pas touché au développement en 2021. C'est complètement fou.
Ouais, aïe, aïe, aïe. Et dans tout ça, ben là, est-ce que tu as encore le classement des constructeurs avec toi?
Oui, je l'ai.
Parce qu'on va parler de Mercedes qui, encore une fois, qui un double podium, c'est le même podium que la semaine dernière. Lewis Hamilton deuxième, George Russell troisième. Bon, Russell a fait une bonne course, le rythme que Ferrari avait, pouvait presque pas espérer de gagner, mais il a fait une bonne course dans les circonstances. Et Lewis Hamilton, qui est parti septième, parce qu'il aurait pu se qualifier plus haut, n'eût été d'un problème de DRS sur son dernier tour en qualification. Mais C'était du Lewis Hamilton tout craché qu'on a vu aujourd'hui.
Ouais.
Et George Russell a été, même s'il finit troisième, vraiment impressionnant. Donc,
oui.
Vraiment, je dois lever mon chapeau à Mercedes qui a su capitaliser sur, disons, les buts contre son camp de Ferrari pour se rapprocher un peu plus. C'était quoi? 30 points d'écart entre Mercedes et Ferrari à partir d'aujourd'hui?
Comment t'as dit ça?
L'écart entre Mercedes et Ferrari après le Grand Prix d'Hongrie, c'est 30 points. Donc,
30 points.
Imagine un double abandon de Ferrari et
un double podium pour
Mercedes.
Pour Mercedes, et c'est dans la poche.
C'est dans la poche.
Avec une petite avance en plus. Ouais.
Avec une petite avance en plus. Donc, c'est possible, mais vraiment aujourd'hui, les Mercedes ont été très bons. Très, très bons.
Oui, ont été efficaces. On réussit à capitaliser, c'est souvent ça, hein, capitaliser sur les chances que tu as de bien faire. Puis durant toute la saison, malgré les difficultés de Mercedes, il était toujours là. Toujours 3, 4e, 3, 5e. Mm-hmm. Il réussissait toujours à être présent. Alors que Ferrari, bon, on ne reviendra pas, mais se tire dans le pied. Mercedes sont là, réussit à être constant. Et voilà, ça donne le résultat qu'on a aujourd'hui. Puis, tout va jouer, selon moi, dans les trois prochaines courses. Après ça, je pense qu'il va y avoir beaucoup de découragement dans le clan de Ferrari, déjà qu'il y en a. Tu sais, c'est sûr que ça joue aussi. Là. Mm-hmm. Le découragement, ça a son pesé d'or là, dans les dernières performances, probablement. Puis en ce moment, Mercedes sont en confiance. Ils savent qu'ils ont la voiture pour réussir à battre Ferrari. Peut-être pas pour aller rejoindre Red Bull, mais battre Ferrari, c'est très possible. C'est plus que possible.
Ouais. Mais vraiment, je dois dire que quand même, le racecraft de Lewis Hamilton, il ne l'a pas perdu.
Ah non, vraiment pas. Il l'a encore. Puis
en plus, ben,
il y a encore la passion, même si ça a été une saison difficile. Ouais. Puis, c'est le fun.
Et George Russell, il pouvait rien faire contre les Ferrari et leur voiture qui est, on va se dire, quand même rapide. Mais c'était vraiment une performance, c'était vraiment un pilotage très calme de sa part. Une belle défense aussi contre Charles Leclerc à plusieurs occasions aussi. Donc oui, c'est Hongrie était potentiellement une des meilleures chances pour Mercedes de brouiller les cartes contre Red Bull et Ferrari. C'est pas encore là, mais on voit le progrès. On voit le progrès comparé à la saison, en début de saison. Donc, force est d'admettre que la W13 a encore un potentiel de gagner. Maintenant, ce sera où? Comment? Moi, je pense peut-être que Singapour pourrait être un circuit qui pourrait peut-être permettre à Mercedes de se rapprocher, parce que c'est pas un circuit où, OK, oui, il y a deux, trois longues lignes droites, mais c'est un circuit qui est assez
demandant. Je suis assez d'accord avec toi.
Donc, peut-être Singapour, ce serait la meilleure chance d'ici la fin de la saison pour Mercedes d'aller chercher une victoire.
Ben même Zandvoort,
oui.
À part le fait que Max va être motivé à fond, ça prend pas, tu sais, je pense que la Mercedes va quand même bien se tenir là, à Zandvoort. Pas de longue ligne droite, là, à part le, ben oui, OK, vous allez me dire que oui, mais comme ça reste que je crois que le reste du circuit peut être à l'avantage de Mercedes, donc on verra bien.
Ouais.
Mais effectivement, la porte est ouverte, est grande ouverte même.
Mm-hmm. Rapidement, on va parler de Alpine, ouais. Parce que Alpine, disons que c'était une course mouvementée pour l'écurie française, mais disons que, bon, c'était un résultat un peu attendu, mais on aurait pu espérer mieux. Esteban Ocon qui s'est défendu comme un lion contre Fernando Alonso au départ. la stratégie des pneus durs qui n'a pas fonctionné jusqu'à un point où Lance Stroll et Sébastien Vettel sont venus dépasser les voitures alpines avant que ces derniers, avant qu'ils ne s'arrêtent. Quand même, oui, c'est une contre-performance dans une situation où la stratégie n'a pas fonctionné, mais dans une journée où Lando Norris continue de marquer des points chez McLaren à lui seul, je crois qu'Alpine s'en tire plutôt bien dans cette course.
Oui, c'est un peu... je vais renchérir un peu ce que j'ai dit dans ma mention honorable. Je trouve que dans les circonstances... aussi que ça tombe bien pour eux parce que Norris fait le travail encore. Puis les deux pilotes alpines ont fait le travail quand même aujourd'hui pour négliger et enlever là, de la pression. Puis on est quand même au statu quo. Donc je pense que Alpine ressort quand même de là satisfait en prenant en compte qu'honnêtement, les Red Bull étaient en grande forme. Ferrari, en fait, des erreurs, mais pas assez pour qu'Alpine se retrouve devant eux. Puis Mercedes aussi est en grande forme. Donc, rendu là, ça rend la tâche très difficile d'avoir plus de points. Donc, je considère quand même là, qu'Alpine, ça aurait pu être bien pire.
Ouais, exactement. Parce que Norris a quand même fait une bonne course. Donc, c'était pas quelque chose qui allait tant déranger. L'équipe française, donc c'est quand même, je trouve que c'est quand même bien pour l'écurie française de repartir avec au moins des points. Donc ouais, Alpine, ouais, ça va, ça aurait pu être mieux, mais
ouais, ça,
mais c'était pas pire au final. Parlons de nos Canadiens. Ben Lance Stroll qui finit 11e. On a eu une même situation qu'on l'a vu la semaine dernière entre une bataille entre Stroll et Vettel. Cette fois-ci, qui s'est terminé à l'avantage de Vettel. Apparemment, et puis je sais pas si c'est confirmé, mais j'ai lu quelque part que Stroll aurait rapporté une crevaison lente qui fait en sorte que Vettel l'a passé lors de l'épreuve. Donc, je vais juste aller trouver ça. Et non, c'est ça. C'était une bonne course pour... c'était quand même une bonne course de la part des deux Aston Martin, de Stroll entre autres, parce qu'il aurait pu finir devant Vettel. N'eût été aussi de ce contact avec Daniel Ricciardo, dont Ricciardo a été pénalisé justement. Donc, force est d'admettre que la Aston Martin fonctionne bien en rythme de course, mais en qualification, c'est autre chose.
Exact. C'est vraiment à ce moment-là que ça craint pour eux. Puis c'est à ce moment-là qu'ils se mettent un peu dans le trouble parce que malgré que les pilotes réussissent à avoir des bonnes performances en course, ils partent tellement de loin que c'est plus difficile de monter la pente. C'est un peu le commentaire que je voyais dernièrement aussi. Tu sais, si Hamilton réussissait à avoir des bons samedis, peut-être qu'il aurait eu les meilleures positions cette année. Ça revient pas mal au même que... donc Aston Martin, tu sais, s'il y avait des meilleures qualifications, probablement que la position en course serait meilleure, puis on parlerait peut-être d'autres résultats. Là. Mais quand même, force est d'admettre qu'en ce moment, ils ont un point. Écoute, ils vont s'en tenir à ça pour l'instant, mais je vois peut-être après la petite pause, peut-être un élan de positivisme. Non, en tout cas, j'espère pour eux.
Ouais, et je leur souhaite aussi. Et sinon, l'autre Canadien, Nicolas Latifi, qui a connu une course assez anonyme, s'est plaint du comportement de la voiture, termine 18e derrière Alex Albon, mais pourra se dire il aura obtenu le meilleur temps de la troisième séance d'essai libre tenue sous la pluie avec des pneus intermédiaires. Aurait pu se rendre... il avait le rythme pour aller en oui. Q2, mais il a fait une petite erreur dans le dernier virage. Et en plus, il avait le meilleur premier secteur de tous. Malheureusement, ce n'était pas suffisant. en Q1, mais écoute, Latifi et la Hongrie, c'est souvent de ça neuf. Il est bon en Hongrie, et pas seulement parce qu'il a obtenu des points l'année dernière, mais aussi en 2020, à un moment donné, il faisait bien, mais je pense qu'il y a eu un contact avec Carol Sainz dans les puits, puis ça a ruiné sa course. 2021, il a obtenu des points avec la course. Et en fait, le fait que George Russell ait dit prioriser la course de Latifi. Et là, cette année, aurait pu se rendre en Q2, mais la voiture semblait assez douloureuse pour lui. Donc, c'est ce qui va compléter en fait le tour de la Formule 1. Mais c'est pas fini parce que il y avait c'était une fin de semaine de course complètement chargée. Il y avait pas seulement que la Formule 1, il y avait aussi la Formule 2, la Formule 3, la série W, l'IndyCar, les 24 heures de Spa, deux courses de Formule E et un peu plus tard au moment où on enregistre la série NASCAR, la Cup Series NASCAR à Indianapolis. Donc, il y a beaucoup de courses. Je vais vous donner tout de suite les résultats de la Formule 2. Marc-André était super content des résultats. Mais d'abord, le sprint. Jack Doohan a gagné l'épreuve devant Yuri Vips et Enzo Fittipaldi qui obtient un podium. Et dans la course principale, c'est Théo Pourchaire qui gagne devant Enzo Fittipaldi et Ayumu Iwasa qui était parti en pole position. Donc, ça, c'était le top 3 au classement des pilotes. Ah oui, puis Felipe Drugovic, qui mène encore le championnat, a terminé 9e, ce qui fait que l'écart maintenant, c'est 180 pour Drugovic contre 159 pour Pourchaire. Donc, c'est 21 points qui séparent les deux. Et la prochaine épreuve sera à Spa-Francorchamps du 25 au 27 août. Sinon, en Formule 3, dans le sprint, Caio Collet a gagné la course devant Colapinto et Maini. Et dans la course principale, Alex Molliard a gagné devant Maloney et Berman. Au classement des pilotes, Isaac Hadjar et Victor Martin sont à égalité. Donc, c'est une égalité française. Et Arthur Leclerc est pas très loin, troisième avec 95 points. Et la prochaine épreuve, c'est à Spa-Francorchamps aussi. Donc, allez écouter notre dernier épisode du podcast. On parle justement des jeunes pilotes de Formule 2 et de Formule 3 qui poussent pour devenir des futurs pilotes de Formule 1. Sinon, dans la série W, tu seras surpris, Marc-André, que Jamie Chadwick n'a pas gagné.
Je suis surpris.
C'est Alice Powell qui a gagné devant Jamie Chadwick deuxième et Brad Kivisa troisième. Donc, c'est la fin d'une séquence pour Chadwick qui avait gagné les cinq premières épreuves de la saison. Alors, je vais vous donner le classement des pilotes à l'instant. Chadwick continue de mener le championnat avec 143 points. Alice Powell et Brad Kivisa sont maintenant à égalité avec 68 points. Et Abby Pulling n'est pas très loin derrière. Elle est à 65 points. Et à noter aussi qu'à l'origine, la série W devait aller au Japon, mais ça a été changé pour aller au Grand Prix de Singapour. Donc, on verra peut-être les femmes rouler, faire des essais en pleine soirée, je l'espère. Mais c'est d'ailleurs la prochaine épreuve de la série W. Sinon, en IndyCar, hier, c'était le Grand Prix Gallagher à Indianapolis sur le circuit routier. Alexander Rossi a gagné l'épreuve. C'était sa première victoire depuis 2019, alors qu'il avait battu Colton Herta à Road America. Christian Lundgaard, qu'on a vu en Formule 2 l'année dernière, obtient son premier podium dans la série. Et Will Power termine troisième, ce qui fait en sorte qu'avec le podium, Power mène le championnat par 9 points, vu que Marcus Ericsson a eu une qualification douloureuse avec un problème de moteur. Et il a terminé 11e dans cette épreuve. Donc, la prochaine épreuve, si je ne me trompe pas, c'est la semaine prochaine à Nashville. Et j'ai tellement hâte de voir cette course, le Grand Prix de Music City dans les rues de la capitale du country. Ça va être une. J'espère que ce sera une meilleure course que ce qu'on a eu l'année dernière parce que Nashville, c'était un sacré shit show. Sinon, en Formule 2, il y avait la course numéro 2 qui s'est terminée il y a de cela une heure. Lucas Di Grassi a gagné devant Jake Dennis et Nick DeVries. Ensuite, il y avait la. Et cette course, elle est vraiment intéressante parce qu'il y a une partie qui est disputée à l'intérieur du Palais des Congrès de Londres. Et la deuxième et une autre partie est à l'extérieur du circuit, donc autour du fameux Palais des Congrès. Et je vais vous donner aussi le résultat de la course numéro 1 qui a eu lieu samedi. Ben, Jake Dennis a gagné devant Stoffel Vandoorne et Nick Cassidy. Donc, le classement des pilotes, s'il est mis à jour, ben, Vandoorne mène avec 185 points. Mitch Evans est deuxième avec 149 et Eduardo Mortara est troisième avec 144. Jean-Éric Vergne n'a pas marqué de points lors de ses quatre dernières courses. Le double champion de la série connaît des moments difficiles et la prochaine épreuve, ce sera les 13 et 14 août à Séoul. Et d'ailleurs, le circuit, il y a une partie du circuit qui va être à l'intérieur du stade olympique qui a accueilli les Jeux d'été. Et pour compléter, il y avait aussi les 24 heures de Spa, cette fameuse course d'endurance de GT3. Eh bien, c'est Team Akodis ASP dans la Mercedes AMG GT3. Quelle belle voiture! Menée entre autres par Raffaele Marcello, qui était un jeune espoir de Ferrari dans le passé, qui a remporté l'épreuve et on se doit de féliciter Team Groupe M Racing avec le Québécois Michael Grenier et Maro Engel, pilote allemand, qui finissent quatrième dans au classement général. Alors, c'est une magnifique. Et en plus, ils se sont permis aussi de mener la course. Donc, c'est une très belle performance de la part du Québécois. Et je dois surtout féliciter Aaron Dames, l'équipe d'endurance 100% féminine avec Michelle Gatting, Rahel Fay, Sarah Bovey et Dorian Pain qui ont remporté les 24 heures de Spa dans la catégorie or, et je pense que c'est le premier équipage 100% féminin à remporter les 24 heures de Spa dans une catégorie. Donc, c'est tout un exploit. Puis c'est une course qui est super difficile en GT3. C'est une course que tout le monde veut gagner quand vous faites de la GT3. Alors, c'est un exploit qu'elles ont réussi. Et il faut féliciter aussi la Canadienne Samantha Tam qui a complété l'épreuve aussi à sa première participation aux 24 heures de Spa. Donc, chapeau aux participantes. Et en plus, elles étaient. Je pense qu'il y avait. Il y avait 6 participantes. J'avais oublié, mais il y a la Saoudienne Rima Jumali qui a gagné, je pense, dans la catégorie bronze, à moins que je me trompe. Et il y a la série, il y a le NASCAR à Indianapolis. On enregistre avant le début de la course, mais il faut aussi mentionner le NASCAR. Donc, c'est ce qui complète cet épisode du bulletin GP. Donc, l'épisode de jeudi, on va pas se le cacher, ce sera un épisode sur Sébastien Vettel, étant donné qu'il a annoncé sa retraite. Donc, on voudrait avoir que vous nous partagiez vos meilleurs moments du pilote, ce que vous allez retenir de Vettel au cours de sa carrière. Donc, vous pouvez le faire. Vous pouvez nous envoyer les messages sur Facebook, Twitter et Instagram @lebulletin GP. On est aussi sur le groupe Facebook La Monoplace, qu'on salue d'ailleurs. Et vous pouvez écouter les épisodes de podcast sur bulletingp.com, notre site officiel, et sur toutes vos plateformes de podcast préférées, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts et autres. Et je tiens à préciser aussi que j'ai fait d'écouter le podcast Les Trois Lions, parce que j'ai été, je me suis permis de m'inviter à la balado de diffusion pour parler de roulement de tambour, Marc-André. De soccer.
Pas de soccer.
Eh oui, parce que c'est la saison de la Premier League, donc... l'épisode va sortir, je le partagerai pour que vous puissiez m'entendre parler de Premier League qui commence le vendredi. Marc-André, merci beaucoup d'avoir été là.
Merci à toi, c'est toujours un plaisir.
Et on se retrouve jeudi pour l'épisode numéro 117, l'épisode spécial à Sébastien Vettel. Mais sinon, pour l'émission d'après-course, on se retrouve dans un mois pour le Grand Prix de Belgique. Sur ce, on vous souhaite une excellente journée, peu importe où vous êtes. Prenez soin de vous et faites attention. Salut tout le monde!
Salut à tous!